Fréquence Mistral.
Et bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux intervenants dans la radio de Fréquence Mistral. On a Seb de la Guinguette Sonore, directeur artistique depuis les débuts de ce festival iconique qui se passe sur les plages de Istres, et Ben du groupe Catchy Peril, Catchy Peril en français, qui vient dans nos studios et qui va jouer sur ce festival. Bienvenue à tous les deux dans les studios de Fréquence Mistral.
Bonjour Yacine, merci.
Salut Yacine.
De nous accueillir.
Bah, c'est avec grand plaisir. Bah, on va commencer les hostilités avec toi, Seb. Seb, comme je le dis, tu es sur le festival La Guinguette Sonore depuis ses débuts. Tu es le directeur artistique en tant que bénévole, puisque c'est un festival bénévole où c'est des amis qui se retrouvent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse de ce festival? Comment il a débuté?
Alors, il a débuté en 2017 de manière un petit peu différente, dans le sens où c'est le Pub de l'Europe et le Pointu, donc un restaurant qui se tient l'été sur la plage de la Romaniquette, et le Pub de l'Europe, qui est une institution rock'n'roll du centre-ville d'Istres, qui ont décidé de se réunir pour, voilà, à la croisée des chemins, pour faire un festival ensemble. Et naturellement, vu que je faisais la programmation au Pub de l'Europe, ils m'ont demandé de faire la programmation. Donc j'étais dans l'organisation, déjà directeur artistique, mais finalement sur le papier, c'était eux les organisateurs. Après deux premières éditions, plutôt réussies, mais quand même compliquées à gérer financièrement pour des privés, ils ont décidé d'arrêter. À ce moment-là, j'ai sorti une association qui s'appelle Les Oreilles en face des trous, des cartons, qui étaient en sommeil depuis 2003, et on a repris l'organisation du festival complètement.
Ouais, effectivement, j'ai regardé un petit peu donc sur ce festival, c'est du rock indépendant. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que le rock indé?
Voilà une bonne question.
Ouais.
Ouais, ça c'est une question compliquée que tu me poses là. Non, ben oui, enfin le rock indépendant, donc nous on est surtout basé sur de la découverte. Alors après, c'est aussi une question de moyens, hein, déjà tout simplement. Mais ouais, donc le rock indépendant, initialement, ben, c'est le rock qui voulait se passer de toute l'institution et qui faisait de la musique dans son coin. Et maintenant, c'est devenu un peu une marque de style, le rock indé. Après, voilà. T'as une idée, toi, de définir le rock indé?
Moi, ça me rappelle, je suis allé voir un petit peu sur Wikipédia récemment la définition de rock indé. Je crois que, en vrai, c'est un peu ce que tu dis, c'est les groupes de rock qui voulaient sortir des choses autoproduites, notamment sans les gros labels, sans les loin des majors, et en évoluant, c'est un peu comme l'étiquette rock alternatif, qui au début venait un petit peu contrebalancer le mouvement musique actuelle pour proposer quelque chose de plus peut-être teinté de musique populaire. Okay. Et ben, de la même manière, le rock indé, au début c'était loin des majors, et après c'est devenu quelque chose peut-être un petit peu plus fourre-tout, même si le terme est un peu péjoratif, mais...
Ouais, après on a vraiment l'envie d'avoir une consonance rock, quelque chose qui nous plaît, nous. Après on s'interdit pas des incartades vers le hip-hop, vers l'électro, vers plein de choses. Souvent, il y a quand même une consonante rock dedans, mais on n'est pas forcément fermé sur le style. Mais on a quand même besoin de rock. Ouais.
Alors, j'ai vu que le festival se passait sur la plage de la
Romaniquette.
Romaniquette, j'étais sûr, j'avais mal le dire. Donc, cette plage, c'est quoi ce festival? Pourquoi on y va? Qu'est-ce qui fait que les gens y viennent chaque année? Pourquoi là, ça fait boule de neige? Comment ça se fait d'ailleurs que ça dure depuis aussi longtemps?
Bah parce qu'on est des warriors. je pense que ça tient dans plusieurs choses, le cadre notamment, donc vraiment une plage, un cadre idyllique au bord de l'eau, c'est vraiment chouette. Je pense, je m'envoie un petit peu de fleurs, mais une programmation musicale de qualité et qui grandit un petit peu chaque année. Et puis le dernier élément, c'est un peu ce côté très bonne ambiance, très chill et à la fois familial, donc voilà, j'aime bien voir se percuter un public familial qui vient avec les enfants, avec des groupes de post-rock indé en face desquels ils se trouveraient pas naturellement, et on se rend compte que ça marche quand même, quoi.
Oui, effectivement, mais c'est un petit peu l'ambiance de ce festival assez familial, où vous avez créé quelque chose que vous essayez de garder depuis le début, puisque dès le départ, vous avez réussi à créer cette ambiance bon enfant, familiale, et vous avez réussi à la conserver sur les 7 années là, qui sont...
C'est ça, alors ça a un petit peu évolué, mais on va dire que au départ, c'était, je vais pas dire une contrainte, parce que c'était pas le cas, mais vu que c'était le restaurant Le Pointu, qui est un petit peu une institution sur Istres, où voilà, là vraiment, on tape dans le public très familial, et quand ils m'ont demandé de faire une programmation où d'un coup ils se sont percutés un côté rock, c'est vrai qu'il y avait cette volonté, attention, mon public, ceux qui viennent, c'est des gens en famille, il faut que ça reste familial, donc il y a eu le château gonflable, et finalement on s'est rendu compte que c'était une recette qui marchait. C'est-à-dire que oui, moi j'ai eu plein de retours de gens qui me disaient, ben, à ce prix-là, maudit, qu'on s'imaginait pas avoir des performances comme ça sur scène, c'était vraiment chouette. Et c'est des gens qui, au départ, parce que maintenant on s'est quand même un petit peu... étendue, et du coup on attire quand même des aficionados de post-rock, de rock indé, etc. Mais ce public familial qui venait, ils se sont retrouvés confrontés à quelque chose qu'ils ne seraient jamais allés voir d'eux-mêmes, et ça leur a plu. Donc ça, c'est chouette.
Ouais, c'est magnifique. Et donc ça se déroule le 30 et 31 août, c'est bien ça?
Tout à fait, 30 et 31 août, à partir de 18h30.
Et donc on en a déjà un petit peu parlé, mais toi tu as la direction artistique du festival. Comment on sélectionne les artistes pour ce festival? Parce que j'imagine que le rock indé, ça regroupe beaucoup de groupes multiples et variés. Comment on va les trouver? Comment on les recrute?
Alors bah, en fait, ça aussi, ça évolue d'année en année, puisque bah, les premières années, bah, on fait essentiellement appel aux copains. Et puis, bah, vu que ça marche, les copains en parlent à d'autres copains, donc on a des copains de copains qui viennent. Et puis, de fil en aiguille, à partir de, on va dire, 2021, on a commencé à travailler avec des bookers nationaux. Et bah, vu que ça se passe bien, petit à petit, eux nous proposent des groupes. Donc maintenant, c'est un peu un mix entre des propositions qu'on reçoit et qu'on étudie et qu'on accepte, entre bah, notre travail de défrichage de la scène locale. Voilà, donc ce qui fait qu'on a des groupes comme Catchy Peril, Technopolis, Brother Junior qui viennent. Et puis après, ben, d'écoute de choses qu'on nous envoie, et voilà, et parfois de gros coups de cœur. Ouais.
Et par exemple, pour Catchy Peril, on a Ben qui est avec nous aujourd'hui dans les studios. Comment vous avez fait? Comment vous l'avez découvert?
Là, pour le coup, c'est un petit peu particulier, puisque Ben était déjà venu jouer en 2021. Avec son ancien projet qui s'appelait Bachir Al-Assid, qui nous a beaucoup plu, donc on est forcément resté un petit peu en contact et on suivait l'évolution de la suite. Et vu qu'on a été conquis par la suite, bah, c'est tout naturellement qu'on essaye de filer un coup de pouce à ce projet incroyable cette année.
Ouais, c'est beau. Vous avez des changements qui sont prévus pour cette septième édition, ou on reprend les mêmes et...
Au détail près, non, on prend la même recette. La recette a fonctionné l'année dernière. Je pense qu'on est arrivé un petit peu dans cette formule, pas loin du max de ce qu'on pouvait faire. Là, on a quelques idées, d'agrémenter le site, pour occuper les gens sur les changements de plateau, quelques animations complémentaires. Mais la recette reste globalement la même. L'année dernière, on a présenté l'exposition Eclipse de Lune pour la première fois, qui vise à mettre en lumière les femmes dans le milieu des musiques actuelles, au travers d'une exposition interactive avec une structure métallique de 6 mètres par 3 et une fresque qui mêle 49 hommes et 8 femmes, ce qui représente les proportions de ce qui se fait actuellement dans le milieu du rock. Et on s'amuse à scanner la fresque pour trouver les 8 femmes, et après on a accès à leur musique, leurs interviews, leurs anecdotes, etc. Okay. Et donc on la représentera cette année encore sur la plage.
Ouais. Ok, d'accord, donc vous avez quand même à cœur de mettre femmes au cœur de...
Bah en fait, oui, c'est une volonté d'essayer de montrer des exemples. L'idée là-dedans, c'est moi je vois juste vu qu'on a un public aussi avec des enfants, bah, que les enfants voient des filles sur scène et que les petites filles se disent moi aussi je peux taper sur une batterie aussi fort que lui, et que naturellement dans quelques années on est environ 50% de femmes sur scène aussi. Ouais.
Aujourd'hui, après cette année, j'imagine que vous avez vécu des moments assez particuliers, parce qu'un festival c'est du plaisir mais aussi des galères. Est-ce qu'il y a un souvenir mémorable, une anecdote que tu aimerais raconter aujourd'hui?
Il n'y a
pas de censure.
Pour cette année, honnêtement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est un peu. La vie est un long fleuve tranquille, c'est presque inquiétant tellement tout se passe bien. Mais je pense que la plus belle anecdote, c'est 2021, hein, l'édition de Bachir Al-Assid, où on nous a annoncé une pluie phénoménale pour les deux jours, et on a réussi à trois jours, le mercredi, pour un festival qui commençait le vendredi, à se déplacer. Et à mettre le festival en intérieur dans la salle de mariage du domaine de Sulose.
Ah oui.
Et voilà. Donc en trois jours, réorganiser tout ce qu'on avait mis trois mois à planifier à l'extérieur. Moi personnellement, j'étais tellement au bout de ma vie que c'est vraiment le reste de l'équipe. Parce que oui, on parle, mais on est une équipe de 7 maintenant à s'occuper du festival. Voilà. Donc chacun avec sa petite tâche. Et j'avoue qu'en 2021, j'avais un peu lâché la barre et laissé les autres.
C'était un peu trop dur pour moi. La crise cardiaque. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas trop de choix. Ok.
Oui. On a eu l'incendie aussi en 2019. Tout à fait.
Il y a eu un incendie. Okay.
Dans la colline d'à côté. Donc ce qui a donné lieu à un spectacle assez magnifique où Husken a joué sous les Canadairs.
Ah oui.
Ouais, c'était assez joli, et par contre c'était un peu problématique puisque la route d'accès au festival était fermée, donc en termes de fréquentation ça nous a pas apporté beaucoup de bonheur.
Ça faisait des belles images mais pas beaucoup de public en somme. Mais comme je l'ai dit, que pour le festival, on a pas, tu parles d'une somme modique, combien, comment on prend ses places et du coup où? On va essayer de rappeler tout ça aux auditeurs, auditrices.
Alors, c'était une somme modique au début. Là, la qualité du plateau artistique grandissant, le tarif aussi, il faut pas se voiler la face. Mais bon, donc on est sur des soirées à 15 euros et 22 euros les deux soirées.
Ça reste raisonnable.
Ça reste raisonnable, je pense, par rapport à la qualité du plateau. Et on peut trouver ça, il y a une billetterie sur le site internet du festival, donc www.laguinguettesonore.fr.
On la mettra en lien sur le podcast, mais dans tous les cas, on peut retrouver sur internet en tapant la Guinguette Sonore, j'imagine.
Tout à fait, ouais.
Donc, comme j'ai dit, on reçoit également un des groupes qui a été sélectionné, qui va jouer sur ce festival, Catchy Peril, donc en la personne de Ben, qui est là aujourd'hui pour représenter le groupe. Bienvenue, Ben.
Merci, salut.
Donc Ben, j'ai écouté un petit peu, comment tu définirais le style de votre groupe?
Ouais, bien sûr, nous on a choisi un terme, c'était nuclear disco punk, donc en fait peut-être qu'on peut plus parler en termes de référence pour cadrer un petit peu le truc. Du coup très globalement c'est du rock, il y a beaucoup d'influences punk, notamment de punk et post-punk de la première vague anglaise. On est très 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 fan de groupes comme... des Sex Pistols et des Clash, des Damned, de Bauhaus, de New Order, Adam and the Ants, tout un tas de groupes des années 80 anglais. J'en oublie, hein, B-52s qui est assez important aussi dans mes refs pour tout ce qui est la composition, l'arrangement de ce projet, puisqu'il y a ce côté très coloré, très fou, plein de synthé. Le synthé a une part importante dans notre musique. On est assez fan aussi des scènes psychées de la fin des années 60. Je pense un peu au premier album de King Crimson. Je pense à des groupes qui ont fait qu'un plus ou moins que quelques albums, quoi. Ultimate Spinach, Sweet Smoke, pour en citer quelques-uns. Et puis, ce qu'on kiffe beaucoup aussi, en fait, les scènes qui ont du mal à se définir avec un seul style, mais qui se définissent avec plus un élan... et une espèce d'homogénéité dans l'intention, comme la Movida espagnole par exemple, avec des groupes comme Alaska y los Pegamoides, qui mêlent à la fois des références ultra-punk et post-punk, avec une chanteuse Alaska qui ressemble à Siouxsie, et qui mélange là-dedans des trucs électro-disco. Et voilà, bon, par rapport à la scène actuelle, on est forcément influencé aussi par... ce qui apparemment s'appelle la crankwave, ce post-post-post-punk avec tous ces groupes type Viagra Boys qu'on adore, Shame, Idols, et on est particulièrement fan de Fat White Family. Donc c'est vrai que pour le coup, on parlait du rock indé tout à l'heure, oui, on pourrait se classer dans ce truc indé, déjà parce que le premier EP sera probablement autoproduit, d'une part, qu'on est bien 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 loin encore des majors et qu'on n'a même pas forcément le désir d'y aller, mais aussi parce qu'il y a quand même une hétérogénéité au niveau de nos influences, voilà, qui trouve un petit peu peut-être son un fil rouge dans la mélodie, dans la présence du synthé et dans l'énergie.
Ok, très bien. Et avec le reste du groupe, comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous avez décidé de former ce groupe?
En fait, moi, je cherchais, lorsque Bachir Al-Assad s'est arrêté, dans un groupe dans lequel je composais beaucoup, et où j'avais déjà cette place de lead chant guitare. Lorsque ça s'est arrêté, j'ai voulu à tout prix monter un projet et le driver pour le mener le plus loin possible, pour vivre le plus d'expériences possible avec. Et je me suis mis à chercher des musiciens. Louise, qui est la clavieriste, qui avait fait une rampla sur un concert à la Salle Gueule à Marseille, qui s'était régalée avec nous. C'est la première que je suis allé voir. C'est une musicienne incroyable. Et on a remonté le truc, j'ai composé tout le set, arrangé la grande majorité du set aussi. Et ensuite, j'ai trouvé Kevin, le batteur, qui est joué dans Sandcastle, qui est un groupe que j'adore, un groupe du Var. Et Paul, à la basse, qui jouait, lui, dans un groupe qui s'appelait Seven Levels, et qui est tout jeune, qui est le plus jeune du groupe. Et qui avait une très très belle présence scénique, et que je trouvais, qui chantait très bien. Donc je me suis dit, tiens, avec un jeu assez technique à la basse, assez solide, c'est le bassiste parfait, quoi, pour nous. Et puis après on a mis tout ça en place et on a attaqué les concerts, quoi.
Mais Catchy Peril, ça vient d'où ce nom et ça veut dire quoi, ça signifie quoi?
Du coup, si on fait la traduction, c'est Péril Accrocheur. Moi, je voulais un nom comme Bachir Al-Assad, qu'on avait trouvé ensemble avec le batteur de Bachir Al-Assad, qui était mon coloc. qui est toujours mon coloc d'ailleurs. Et on avait trouvé ce jeu de mots là et je voulais rester en fait dans la tradition des jeux de mots un petit peu comme on trouve beaucoup aussi dans la scène punk, dans la culture punk. Voilà, il y a la chanteuse de X-Ray Spex qui s'appelle Polystyrène, des noms comme Captain Sensible, tout ça, des noms un petit peu débiles qui font appel à des jeux de mots et tout. Moi je voulais rester là-dedans. Puis il y a un truc un peu plus premier degré, si on le lit, qu'on le traduit, Perry l'accrocheur, voilà, qui fait un petit peu référence à différents éléments anxiogènes de l'époque actuelle. Donc ce côté péril, j'ai pensé aussi à la rue d'Aubagne, les arrêtés de péril dans Marseille, tout ce truc. Pour moi, ça s'ancrait, il y avait plusieurs entrées qui fonctionnaient. Et puis Katy Perry, voilà, qui m'avait, je pense, trauma avec son I Kissed a Girl. J'étais tout jeune et j'essaie de m'en remettre et j'élabore ce trauma petit à petit.
Ouais, voilà. Il y a aussi dans le film, c'est dans quel film où on a un dictateur coréen qui chante du Katy Perry aussi, si je me souviens bien.
Ah ouais, c'est possible, ça me dit quelque chose. C'est là où ils font une interview, là, où ils vont
oui,
faire l'interview.
Oui, l'interview qui tue, exactement.
Voilà, en fait, bah, ce genre de truc débile, ouais. C'est vrai que je suis assez friand de ce genre de choses, donc...
Très beau souvenir, en
tout voilà.
Et comment vous préparez votre performance là aujourd'hui pour le festival? Qu'est-ce que vous avez prévu de jeter des choses sur les gens? Qu'est-ce que vous allez faire?
Le matin à 6h30, réveil musculaire.
Okay, ouais.
Voilà, on commence par des petites séances de footing.
Ok.
Voilà. Après, endurance. Endurance à toutes sortes de produits Lego pour la plupart.
Café en priorité.
Voilà, café en priorité. Donc, mais on se prépare là pour tout dire. On est beaucoup. Enfin, je travaille beaucoup sur la pochette avec des artistes marseillais du moins qui vivent à Marseille, qui sont vraiment excellents. Sébastien Roulet, Serenity Above Chaos et Lola Kerjean. Pour la pochette, on a bossé là récemment à tourner le clip qui sortira fin août, le 30 août. Donc ça fait beaucoup de boulot. On a déjà prévu juste de se faire 3 jours de résidence avant. Là, on a enchaîné une vingtaine de dates depuis qu'on a commencé en novembre.
Okay.
À Marseille, à Paris, en Bourgogne. À Paris, on est allé faire le Supersonic et le Cirque Électrique. Enfin, on a été quand même très fatigué quand le 24 juin, on a fait notre dernière date. On a eu le plaisir de faire le dernier concert du C4, qui était un super, super petit lieu, vraiment très rock'n'roll, comme on veut qu'il en existe. Donc on était crevés. Alors là, notre partie du travail pour l'instant dans la préparation, c'est de se reposer, c'est de prendre un peu des vacances, tout ficeler les dernières choses qui restent à faire pour préparer les sorties. Et ensuite, on se fera 3 bons jours de résidence calme avant de reprendre.
C'est une préparation qui donne envie, en tout cas. On aimerait tous avoir la même. Aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu votre groupe. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très important, mais quel que soit le style de musique, le style de performance, c'est la connexion au public. Comment on arrive à connecter avec le public? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour connecter avec votre public quand vous arrivez sur scène?
Pour moi, la proximité, c'est hyper important. C'est-à-dire que, quelle que soit la taille de la scène sur laquelle on joue, je souhaite qu'à chaque fois... le quatrième mur soit moins solide, plus friable, plus poreux que ce que ça pourrait l'être, de toujours rester au plus proche. Nous, on vit clairement, je pense, pour ça. C'est-à-dire qu'on veut aller vite, loin et fort, parce que, en fait, ça nous fait être heureux, simplement, que sans ça, c'est plus compliqué. Et du coup, le simple fait de partager ça pendant 45 minutes, ben, on essaye de pas se la raconter et de garder la reconnaissance envers les gens. Et je pense que pour l'instant, je sais pas si ça se sent ou non, mais en tout cas, nous, on sent que vis-à-vis du public, le fait de revoir des têtes, qu'ils aient 18, 25 ou 60 ans, parce qu'en fait, on a un public assez hétéroclite au niveau des âges et compagnie, mais on est rassemblés par, je pense, des choses qui, une espèce d'intensité qui est toujours là dans la culture rock. Voilà.
Non, mais clairement, ça se sent ce que vous donnez sur scène. Et bon, voilà, moi de ma petite fenêtre de programmateur et puis pour le coup de soutien, ce qui fait vraiment plaisir avec ce projet-là, c'est justement cette proximité et cette envie de tout donner sur scène et qui se ressent vraiment de manière viscérale. Et à côté de ça, tout ce qui vient de vous dire, l'envie de travailler, de se structurer, de se professionnaliser. Donc il y a les deux aspects et qui pour l'instant, c'est un équilibre qui est toujours un peu précaire, mais tant qu'ils arriveront à le garder, ça continuera à avancer.
Mais on va terminer justement avec cette question sur l'envie de structurer. C'est quoi la suite? Je sais qu'il y a, il y a un projet là qui va sortir prochainement, non? C'est ça pour Catch Peril?
Tout à fait. Là, on a passé 3 jours la semaine dernière avec un type qui est chef opérateur, qui est incroyable, qui s'appelle Simon Hugues, qui est un mec de Manos, je crois. On a tourné un clip ensemble. On a travaillé aussi avec Lenaïk. Voilà, là on était sur le clip du coup. Hein, voilà, donc le clip, il va sortir le 30 août. Mm-hmm. Le 31, on fait la guinguette. Ensuite, le 27 septembre, on est à l'EDA avec le groupe Antenne, des Lyonnais qui sont super, super chouettes niveau musical. C'est vraiment très cool. Ensuite, on fait une première partie de Structures Éditeurs Sismiques 17 octobre. Et après, on part en tournée avec le groupe Sovox, qui sont nos potos qu'on salue. Là, on a une dizaine de dates ensemble. Donc, à Paris, Lille, Bruxelles, Le Mans, Rennes, Bordeaux, et on revient. Et en fait, ça commence le 2 novembre et on aura sorti notre EP 5 titres qui s'appellera Disco Sucks.
Ok, donc le 1er novembre pour ce premier EP et on vous retrouve aussi donc le 30 et 31 août à la guinguette.
Le 31 pour Catch Peril.
C'est ça. Mais dans tous les cas, on prend la place pour les 2 jours et on vient les 2 jours.
Évidemment. Ah ouais, la veille, grosse prog. Il y a Meul, We Hob, Brother Junior, Purse. Ça va être une grosse soirée.
On sent en tout cas que vous êtes des passionnés et vous avez à cœur de partager cette passion. Donc merci à vous et on se retrouve pour ce bel événement à la fin août, juste avant la rentrée.
Merci à toi.